Bonjour Roland Gillet.
Bonjour.
Bienvenue. C'est vous qui allez faire l'émission aujourd'hui. J'ai pas une voix qui me permet d'être très très présent. Donc je vais vous donner la parole et vous allez pouvoir comme ça. Vous êtes professeur d'économie financière à Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université libre de Bruxelles. Également conseiller auprès de différentes autorités publiques et privées. André Lozocco-Pietri, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue. Président de JEDI, l'agence européenne d'innovation de rupture, et fondateur du fonds à capital, et Christian Saint-Etienne. Bonjour Christian.
Bonjour.
Professeur au CNAM, membre du Cercle des économistes, vous avez publié Le conflit sino-américain pour la domination mondiale, l'Europe et la France dans le nouvel ordre mondial aux collections Alpha. Comment vous vivez la séquence budgétaire du moment? Alors je viens de donner deux informations du jour. Le compte personnel de formation, chaque salarié devra verser un forfait de 100 euros pour pouvoir y recourir, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Ou encore le passerail qui était promis pour cette année, permettant d'accéder tous les mois pour une somme modique à l'ensemble des TER ou des intercités, qui est purement et simplement enterré. Ça coûte de l'argent, on l'a mis en place en Allemagne, ça a désorganisé les transports allemands, ça n'a pas permis de désengorger les routes, mais ça coûte 3 milliards d'euros tous les ans à l'État fédéral et aux lenders. Mais ce sont que deux exemples sur la séquence, Christian Saint-Etienne.
Le gouvernement se trouve confronté aux conséquences de la politique qui a été menée depuis 4 ans, avec le déficit le plus élevé parmi les grands pays européens, sachant qu'en plus, nous sommes dans la situation du double déficit, c'est-à-dire un énorme déficit extérieur. Et dans cette situation-là, il faut absolument reprendre le contrôle des finances publiques. Alors, pour dire très simplement aux auditeurs, téléspectateurs, on est sur une tendance de déficit à 4,5 points de PIB par an. On fera pire, d'ailleurs, on a fait pire en 2023, on est vraisemblablement au-dessus de 5 points de PIB.
Ah, on sera au-dessus de 5, oui.
Et on aura du mal à tenir la ligne des 4,5 à la fois en 2024 et 2025. Or, il faudrait que, et c'est assez facile pour une fois, il faut diviser par 3 le déficit, c'est-à-dire le ramener de 4,5 à 1,5 pour que ce soit soutenable, c'est-à-dire que le taux d'endettement rapporté au PIB, qui est autour de 110 points de PIB aujourd'hui, commence à se réduire significativement.
Vous avez dit facile, Christian Saint-Etienne.
Non, mais facile plan mnémotechnique. Donc, il faut passer de 4,5 à 1,5, il faut réduire de 3. Et là, il faut se souvenir, et je termine par ça, sur une dépense publique en France qui est à 56 points de PIB en 2024, on a une dépense sociale qui représente à peu près 60% de la dépense publique. Donc, si vous excluez les mesures concernant les prestations sociales notamment,
c'est pas possible.
Toute l'action sociale, vous n'avez aucune chance de ramener de 4,5 à 1,5.
Bon, donc ça veut dire qu'il faut réformer l'assurance chômage. Ça veut dire
il faut jouer sur les retraites.
Ah ben oui, mais les retraites, c'est non.
Alors, le président a dit non, mais parce qu'il... Vous savez tous pourquoi.
Oui, parce que
c'est son premier électorat. Néanmoins, même du point de vue des retraités, dont je regarde l'ensemble des retraités droit dans les yeux, je pense que c'est même leur intérêt que...
Alors, il faut... Vous allez vous faire insulter, Christian.
Il y a des gens qui ont dit, qui proposent d'arrêter les indexations. C'est évidemment insupportable, parce qu'il faut toujours se souvenir que les prestations retraite sont la contrepartie des cotisations que les gens ont versées pendant 40 ans. Donc, il n'y a pas besoin... c'est pas justifié, c'est pas acceptable qu'on les extermine quand ils sont retraités. Néanmoins... ça revient à l'extermination.
Oui, non, mais bon...
En revanche, je pense que les retraités eux-mêmes devraient soutenir une mesure où on ferait une indexation sur les prix moins 1%. Et si vous faites les prix moins 1% 3 ans ou 4 ans de suite, ça fait une énorme économie et en même temps, ça préserve
pourquoi est-ce qu'il serait favorable? C'est une sous-indexation, ce que vous me présentez.
Oui, bien sûr.
Mais
pourquoi ils seraient favorables? Parce que comme les retraites représentent quasiment un quart de la dépense publique, si on a un choc de dépenses, un choc sur les finances publiques comparable à la Grèce, ça ne sera pas inflation moins 1%, ça sera moins 30%.
Oui, d'accord.
Donc, il vaut mieux avoir une réduction douce sur la longue durée qu'un choc
violent. Bon. Roland Gillet, vous trouvez que la France est vraiment plus malade que les autres?
Mais ça dépend.
Parce que c'est un peu l'impression qu'on a quand on regarde les chiffres macro.
Mais ça dépend de quoi, malade. Mais certainement de son déficit et de son endettement.
Oui, mais on aurait pu le dire il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans.
Mais le pire,
sauf que là, on a un sentiment d'urgence.
Oui,
que Bercy est un peu mort de faim sur les.
C'est vrai, mais c'est parce qu'on continue dans la même voie. Chaque fois qu'on n'arrive pas à faire passer d'un point de vue, alors évidemment, il y a les élections maintenant électorales, une décision intelligente qui demanderait un effort sur le plan budgétaire, on le ramène par un endettement plus important. qu'on reporte à terme. Alors, à force de reporter de l'endettement, à un moment donné, d'abord, avec les taux d'intérêt qui remontent, même si on peut espérer qu'ils vont rebaisser, ça fait tout de suite un peu plus mal que quand ils étaient à zéro. Et surtout, on ne règle pas les problèmes de fond. Et c'est ce qu'on vient de dire maintenant sur les retraites. Si on dit, c'est un point important, il y a eu des gens dans la rue. Enfin, moi, je suis venu beaucoup à Paris, comme beaucoup d'autres, en tant qu'étranger. J'ai vu plus de gens dans la rue depuis des années parce que le problème des retraites allait être adressé. Et au bout du compte, maintenant, on arrive dans la période difficile électorale de faire passer des choses qui rendent la dette soutenable et qui rendent aussi les finances publiques françaises plus crédibles. Et là, finalement, on dit, on ne fera rien. Et c'est le président lui-même qui a pris des risques avant sur ce volet-là, qui n'est quand même pas très facile à faire passer, qui le dit. Donc je dis, à un moment donné, la France finit par être malade de son inaction sur des choses où elle a promis qu'elle le ferait. Et c'est vrai que si on regarde pour le moment sur des chiffres quand même qui sont importants, on parle de l'Allemagne qui va un peu plus mal, et c'est vrai sur certains points, mais regardez, 64% de PIB, le rapport dette PIB, nous on est à plus de 111, ni nous en m'associant à la France. Nous. Donc clairement, si on continue, on fera 120 par rapport à 60. Alors de dire, les Allemands sont capés sur certaines dépenses publiques parce qu'ils ont des règles internes, vous l'avez vu notamment au niveau de l'aide à leur PME, où ils n'ont pas pu faire parce qu'il y avait une règle 2. Ici, il n'y a aucune règle. Aucune règle, j'entends, fixée d'avance. Et même pas des seuils absolus de dette, comme les Américains qui disent à un moment donné, si on atteint un certain niveau absolu, on doit quand même le dire au peuple. Et si on ne trouve pas un accord tout de suite, tout le monde le voit parce qu'on ne sait plus payer certaines dépenses publiques. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller dans ces excès-là, mais ni dans la rigueur allemande, ni dans l'excès de constatation du côté américain. Mais à un moment donné, si on veut que les choses soient claires, il faut quand même aussi les exposer. Et c'est ce que disait Christian vis-à-vis des retraités. Moi, je n'ai pas la prétention d'expliquer ce qu'il faut faire aux Français étant belges sur le volet des retraites, mais si on ne fait rien, c'est pire. C'est pire.
Bon, il ne se passera rien, visiblement, sur les retraites. On nous parle d'une réforme de l'assurance chômage.
Oui, mais ça augmente le risque que ça fasse moins 30 un jour.
Mais c'est la première fois, je trouve, que j'ai ce sentiment un peu de malaise. On a l'impression qu'il faut tout d'un coup, dans l'urgence absolue, aller chercher des paquets de milliards d'euros, comme jamais j'avais vu des économies imposées comme ça.
On l'a fait en 96-97.
Je devais être trop jeune alors pour me rendre compte.
Et vous n'étiez pas né. Et on l'a fait sous Hollande en 2012, sauf que lui.
Non, c'est des impôts là.
Voilà, il a fait un point et demi de hausse d'impôts, ce qui a tué l'économie française pour trois ans.
C'est très très efficace. On nous regarde comment en Europe, André?
Les Européens sont tous malades de différentes maladies. Je trouve que la France, il y a ce côté, on est un peu comme un drogué, où effectivement on a l'air d'être encore très bien parce qu'on sort du quoi qu'il en coûte. Ça, c'était quand même très facile en tant que politique. Et le problème, c'est que l'overdose est dans quelques mois. Enfin, c'est clair. On a quand même le premier poste de budget l'année prochaine qui sera le service de la dette. Donc,
c'est jamais arrivé.
Deuxième chose, on a quand même le bonnet d'âne, mais ça, c'est tous les gouvernements qui nous ont précédés depuis des dizaines d'années, qui en fait, quand ils ont un problème, ils font le fameux coup de rabot. Toutes les entreprises savent que quand on rabote toutes les choses de même manière, mais c'est pas là qu'on restructure une organisation.
C'est pour ça que je dis que c'est l'urgence absolue.
Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus, c'est les investissements d'avenir qui sont touchés. C'est l'enseignement supérieur et l'innovation. Donc oui, c'est très facile dans une entreprise également de couper la R&D, on le voit pas pendant 3 ans. Mais dans 3 ans, on sera totalement perdu, on va parler de l'IA et d'autres. Deuxième chose, c'est la justice. Si on parle d'une cohésion sociale nécessaire, le sujet de la justice est la priorité numéro 1. Dernière chose, tout ce qui est environnement, si on pense que le sujet climatique c'est une des premières priorités parmi tellement d'autres du Premier ministre, voilà.
Donc on a quand même ceux qui considèrent qu'on a... Parce qu'effectivement, aller tailler des dépenses rigides, qui sont notamment la masse salariale, c'est très compliqué. Alors, on va finir...
Et je ne comprends pas le président. Il ne rentrera pas dans l'histoire. C'est le moment ou jamais d'expliquer. Je veux dire, si on veut vraiment être un peu dans les pas de De Gaulle, qui avait eu à certains moments, effectivement, le courage d'expliquer des mesures impopulaires, c'est le moment ou jamais. Je ne le vois pas venir.
Alors là, les pistes, réformer l'assurance chômage, stopper le système pré-retraite UNEDIC, désindexer les prestations comme les APL ou les allocations familiales, réduire peut-être les primes à l'apprentissage, sans doute... On verra une nouvelle attaque contre le crédit d'impôt recherche. Il y a toujours l'histoire des cotisations allégées au-delà de 2,5 SMIC. Peut-être un nouveau gel du point d'indice de la fonction publique.
Vous avez un package...
Peut-être sur ce sujet du crédit d'impôt recherche. Pourquoi pas? Je veux dire, il faut arrêter les tabous. Je veux dire, tout le monde sait à oui, beaucoup tout le monde sait que le crédit impôt recherche aujourd'hui, il bénéficie aux grands groupes, c'est du beurre dans les épinards de budget R&D, pas du tout spécialisé sur les quelques priorités technologiques dont on a besoin, mais personne n'ose y toucher parce qu'évidemment le lobbying du CAC 40 est beaucoup plus puissant que celui des plus petites structures qui ont beaucoup de mal à y avoir accès. Non, là il faudrait le restructurer. Bon. Mais le problème c'est que tout le monde est finalement un tout petit peu peureux et n'a pas beaucoup de courage.
Il est monté à plus de 6 milliards le CIR, je crois qu'il y est aux alentours de 6 milliards et demi.
Il faudrait réfléchir à l'efficacité de cette mesure. On ne sait pas mesurer l'impact.
Je suis d'accord, et d'ailleurs Philippe Aguillon défend aussi cette idée qu'il ne faut pas avoir de tabou sur le crédit d'impôt recherche, et s'il y a des choses à faire, il faut les faire. Oui, Christian Sattel.
Non, je disais, il y a trois mesures, toutes aussi détestables les unes que les autres.
Ah ben rien ne sera très confort.
Parce que ça touche à chaque fois des groupes sociaux importants, mais si vous faites retraite et l'ensemble des prestations sociales...
Retraite, donc sous indexation.
Avec inflation moins 1%.
Oui.
Si vous restreignez, comme ça avait été fait d'ailleurs sous Hollande, la progression des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, parce qu'on a une création d'emplois absolument délirante actuellement dans les collectivités locales, il faudrait accepter qu'il y ait une restructuration au niveau de l'action locale. Si vous faites donc la mesure sur les prestations sociales, sur les collectivités locales, et vous évoquiez sur le chômage. Alors le chômage, c'est très intéressant, parce que c'est une mesure de réduction de la dépense qui augmente l'offre.
Et ça, c'est une mesure de réduction de la dépense, quelle offre ?
De l'offre de travail. Parce qu'aujourd'hui, les conditions d'obtention des allocations chômage sont beaucoup plus favorables en France qu'en Allemagne.
Elles restent plus favorables.
Voilà. Si vous les alignez sur l'Allemagne, vous augmentez la force de travail. Je lisais en venant vous voir ce matin...
Si je les aligne sur l'Allemagne, j'augmente la force de travail. C'est pas super évident.
Parce que vous réduisez le nombre de chômeurs qui optimisent les allocations chômage.
Ah, vous partez du principe qu'il y en a beaucoup qui optimisent les allocations et qui auront des incitations au retour à l'emploi plus fortes.
Ça augmente le retour à l'emploi.
C'est la grande idée de Gabriel Attal.
Oui, et donc si vous faites ça, je lisais ce matin qu'il y a une usine de retraitement des panneaux photovoltaïques à côté de Bordeaux, qui voudrait tripler sa capacité de traitement des panneaux photovoltaïques usagés, mais qui n'y arrive pas parce qu'il ne trouve pas de travailleurs. Mais ces exemples-là, vous pouvez les multiplier par 100 sur le territoire. Et si vous faites ça, on parle aussi, c'est très important, ces mesures de réduction de dépenses qui augmentent l'offre, parce que si on accélère la croissance du PIB, à ce moment-là, ça réduit aussi la pression sur le déficit.
Mais il y en a certains, vous expliqueront, Christian Saint-Étienne, que cette réduction de dépenses qui augmente l'offre, ça marche quand le ciel est bleu, mais pas quand le ciel est gris.
Non, ça marche tout le temps. Là.
Alors, parce que c'était quand même l'engagement...
Parce qu'on est dans une économie en transition, donc si vous ne pouvez pas augmenter le traitement des panneaux photovoltaïques alors qu'il faut accélérer dans la transition énergétique, vous êtes totalement sur place.
L'engagement de l'exécutif était de mener des politiques contracycliques, c'est-à-dire de serrer la vis quand ça va bien et de la desserrer quand ça va mal. On est plutôt dans une période de détérioration du marché de l'emploi.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il faudrait changer de la politique monétaire, évoquée tout à l'heure.
Bon, je veux bien qu'on parte sur la politique monétaire.
À partir du moment où tous les États restructurent et réduisent leur déficit public, il faut que sur le plan monétaire, on desserre le frein.
Policy mix, c'est-à-dire qu'il faut, si on serre le budget, il faut desserrer le monétaire.
Bah voilà.
Donc ça veut dire qu'il faudrait accélérer la baisse de taux.
Notamment le taux de dépôt, à 4 et qu'il faudrait ramener à 3 en urgence.
Roland Gillet, par rapport à ce qu'on a dit, engagements contracycliques, finalement la BCE a une clé de réponse que pour l'instant, elle n'agite pas.
Mais juste d'abord, un premier point que je trouve quand même très important, c'est que la France a été parmi les pays pendant la période Covid et après, il y en a d'autres, mais qui ont été très dans quoi qu'il en coûte et qui ont donné justement la possibilité à des gens dans une période grave de s'en sortir même mieux que s'ils avaient travaillé.
Oui,
mais donc, l'ennui aujourd'hui, c'est que pour faire passer, quand ça touche des grands groupes, comme le disait Christian ou André tout à l'heure par rapport à la comparaison à l'Allemagne, faire passer auprès de gens qui ont vu qu'on n'est quand même pas tombé, entre guillemets, en faillite, qu'il n'y a quand même pas eu de catastrophe, qu'on a pu placer toute cette dette à la Banque centrale, leur dire maintenant, pour des choses qui paraissent plus marginales par rapport à la crise Covid, vous savez, ça on ne peut plus faire comme effort. Eh ben, ça semble très difficile, d'autant plus dans un pays où on dit, mais enfin, pourquoi? On l'a bien fait avec, une, avec un gros problème, et pour le moment, on tombe peut-être du 10e étage ou du 100e, ça ne change rien, mais on n'a toujours pas touché le sol au moment où ça fait très mal, et donc on dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas encore une fois?
Mais on a changé.
Donc, chaque fois que vous amenez quelque chose, on a dit les retraites, ce que Christian a proposé tout à l'heure, c'est quand même pas la fin du monde pour quelqu'un qui voit quand même une longévité dans sa retraite. Si on dit, sur ce qu'on a dit pour les primes recherche, ben, quand on voit quand même comment c'est fait, parfois comme ça peut être vraiment un bonus non nécessaire, on peut aussi faire des choses. Mais ici, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait des efforts? Puisque de toute façon, dans les périodes les plus graves, il ne s'est rien passé. Le taux d'endettement de la France, la prime de risque reste vraiment pour le moment tout à fait, non pas acceptable, mais très faible. Donc, en gros, comment est-ce qu'on va faire passer, qu'on va toucher à beaucoup de gens un tout petit peu, alors que quand ça va très mal, on arrive à le faire passer par de l'endettement qu'on... Et alors, on utilise évidemment les mauvais jeux qu'on peut utiliser de la Banque centrale pour masquer le fait que finalement, on s'endette à nous-mêmes, puisqu'on place dans une banque centrale, même européenne, de l'argent où les actionnaires sont les États eux-mêmes et où on leur reproche, pour le FMI notamment, à des républiques bananières, en disant, mais non, vous pouvez pas quand même vendre à votre banque centrale votre endettement. Or, ici, c'est ce qu'on fait. Et donc, à un moment donné, le peuple...
Ah, c'est ce qu'on a fait.
C'est ce qu'on a fait. Mais c'est ce qu'on a fait.
Oui, mais
et je ne l'exclus pas, d'ailleurs, qu'on puisse à un moment donné encore le refaire.
Je ne l'exclus pas.
Si ça fait mal à un moment donné au niveau agitation sociale, et c'est ça qui est quand même dangereux. Et si on ne peut pas, et alors c'est vrai, ce que disait André aussi sur le volet expliqué aux gens, ce qui pourrait arriver sans prévoir la fin du monde, avec ce genre de mécanique derrière, et que plus personne ne veut faire des efforts. En Belgique, je le dis souvent, quelqu'un qui doit faire des efforts, ben, si c'est sur le revenu, on doit taxer tous les gens jusqu'à mon revenu à moi, normalement, et puis les autres doivent payer. Donc en gros, aujourd'hui, c'est tout le monde, mais pas moi, fera l'effort. Et avec cette technique-là, on finit par ce que ceux qui doivent faire l'effort à un moment donné disent, mais pourquoi nous? Et en plus, qu'est-ce que ça coûterait si on faisait comme avant? C'est ça, moi, je pense, qui fait qu'on tourne en rond. Et oui, la France a quand même été dans le quoi qu'il en coûte. Et si vous regardez encore aujourd'hui sur beaucoup de choses, même sur l'armement et ainsi de suite, hein, sur le fait qu'on doit se réarmer et faire des choses, c'est ceux qui sont le plus dont on va le faire. Mais je me demande comment ils ont les marges budgétaires pour le faire. Donc je vois bien où ça va aller à un moment ou à un autre.
Hein. Personne
et si on regarde pour le climat, regardez, c'est aussi la même chose. C'est comment est-ce qu'on peut convaincre l'Europe de s'endetter pour le faire? Mais l'endettement européen n'a d'égalité qu'à partir du moment où on voit les pays qui garantissent cette dette. Hein. Et donc, moi, ça m'inquiète, oui.
Personne ne veut imaginer qu'il puisse y avoir un jour un incident de crédit qui l'attrape.
Voilà.
On a l'impression. Alors, vous dites qu'on est au 100e étage et que pour l'instant, tout va bien.
Ben oui. Mais je pense qu'on n'est plus au 100e. On descend de plus en plus vite.
Oui, sauf que la gravité.
André Le
Zecroux. Sauf que la gravité est une loi implacable. Et ce qu'on n'a probablement pas compris, mais on est en train de le réaliser, qu'on est dans ce fameux monde exponentiel. C'est-à-dire, les choses ne sont de moins en moins linéaires. C'est-à-dire, il y a des à-coups. Et je pense que sur le sujet budgétaire, on va avoir exactement le même enjeu. On est en train de se rendre compte sur la défense qu'on est incapable, européen, de se défendre. Donc, prions que Poutine ne soit pas complètement fou. Mais s'il l'est, eh bien, je pense qu'on va être tout nu. Heureusement qu'on a notre dissuasion en France. Mais bon, pensons aussi aux autres pays européens. Mais on n'a plus aucune marge de manœuvre. Une deuxième crise Covid, comme celle qui nous est arrivée en 2020, on est incapable d'y répondre.
Sans la Banque Centrale Européenne, c'est absolument évident.
Voilà. Et la Banque Centrale Européenne...
Vous diriez qu'il faut qu'elle baisse ses taux d'urgence.
Mais je pense qu'elle n'est pas du tout dans le proactif. Je pense qu'on va parler de la comparaison entre les États-Unis
juste
et l'Europe.
Juste après.
Le vrai sujet, c'est que d'un côté, on fait de la stratégie, on anticipe. Et ici, j'ai l'impression qu'en France et en Europe, on est sur le boulevard périphérique et on fait une circulation en accordéon. D'ailleurs, parfois, on roule quand ça va bien et bam, soudain, on s'arrête. Je pense que c'est ça la vraie image.
Mais vous pensez vraiment qu'il y a... Enfin, on a souvent posé la question...
Il va y avoir une autre pandémie, non, c'est sûr.
On s'est toujours demandé si la BCE était impuissante ou incompétente.
Incompétente. Je crois que c'est clair. Enfin, par rapport aux résultats des Américains depuis maintenant 20 ans, il y a un décrochage de 30% du PIB.
Ah, ça, faut reconnaître que...
Par habitant.
La fameuse Amérique en récession en 2023...
C'est raté.
Vous rentrez des États-Unis, Roland Gillet. Vous allez nous dire un peu comment est-ce que vous avez perçu ce pays et comment vous nous regardez quand on est là-bas, comment on nous regarde, nous. Alors, il y a les aspects géopolitiques, les aspects purement économiques et justement, la course à l'intelligence artificielle. On a évoqué le CAC 40 qui se porte si bien la semaine dernière. En admettant que s'il y a des secteurs qui sont bien présents dans le CAC 40 avec des vraies puissances françaises totalement internationales sur la tech, c'est quand même pas le bonheur. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Ah, c'est...